Radio Campus Angers, il est l'heure de chasser les ballasts et de tenir l'immersion, l'heure d'entrer dans le sous-marin. Il paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune. Bonsoir, le nôtre navigue dans les eaux plus ou moins troubles de l'actualité du lundi au vendredi, excepté le mercredi, jour des enfants, pendant lequel nous devons nous reposer. Nous sommes de chaque thématique, qu'elle soit politique, économique, associative, étudiante ou navale, qu'elle soit nationale, locale ou sur un point égaré des eaux internationales. Sonar activé, périscope remonté, rien ne nous échappe. Ici Tiffaine, votre commandant de bord pendant cette heure en eau profonde, et avec moi ce soir au poste de manœuvre, Thomas, Sonia, Clara et Mathilde. Ce soir, au sommaire du sous-marin, nous aurons David Milbeau du festival Culture Barbare en interview. Culture Barbare, c'est le festival de novembre qui propose des concerts dans les cafés partout en France. Ça a débuté hier et ça se poursuit ce soir et demain. En deuxième partie d'émission, Sonia dressera son débrief subjectif de la semaine. Clara, à la barre pour sa rubrique sexo, est allée enquêter et tu nous diras quelles sont les positions préférées des angevins. Mathilde, notre dynamite sculpture, nous racontera ce qu'elle a fait cette semaine et tu nous conseilleras des plans pour la semaine prochaine avec ton agenda. Et comme chaque jour en fin d'émission, vous retrouverez l'agenda de ce soir et la bulle sonore. Mais avant toute chose, c'est l'heure de retrouver Thomas pour son billet d'humeur. Et Thomas, en termes de revendications, c'est chacun son tour.
Et oui, et cette semaine, c'était donc le tour des céréaliers. Plus une semaine ne passe sans que le gouvernement n'ait à faire face à des manifestations. Pour un peu, on se croirait à la boucherie du supermarché où il faut un ticket avant d'être servi. Doucement, doucement la petite dame, il y en aura pour tout le monde. Poussez pas, poussez pas. Embouteillage au rayon des revendications. Mieux vaut surveiller son tour et son numéro. Cette semaine, c'était donc le tour des céréaliers. Ils organisaient des barrages filtrants autour de Paris afin de protester contre les réformes de la PAC prévues en 2015. Ils manifestaient aussi contre l'augmentation de la TVA sur les engrais agricoles au 1er janvier 2014. Pas de bol pour eux, ils ont tellement bien filtré qu'un automobiliste est mort au filtrage. Passons sur ce filtrage hasardeux et attardons-nous sur le discours, sur le fond comme sur la forme. Les céréaliers ne sont pas contents, car on va toucher à leur PAC. Petit retour en arrière. Née dans l'Europe d'après-guerre, la politique agricole commune a pour but à l'époque d'encourager le regroupement des exploitations et l'augmentation de la productivité agricole pour nourrir la population européenne en pleine explosion. On met donc en place un système de subventions avec prime à l'hectare et prime au rendement. On met donc en place une TVA réduite sur les engrais chimiques afin d'inciter à leur consommation. La PAC connaît un tel succès que l'Union européenne est désormais un poids lourd sur la scène agricole mondiale. Le problème, c'est que ce système a trop bien marché. Aujourd'hui en Europe, 80% des subventions sont perçues par 20% des exploitations agricoles. On se retrouve avec des fermes surdimensionnées, sursubventionnées, qui touchent des millions d'euros chaque année. Pour tenter de réorienter la PAC vers des productions plus petites et des exploitations plus respectueuses de l'environnement et plus pourvoyeuses d'emplois dans les différents bassins agricoles, la Commission européenne a décidé de favoriser dans son prochain programme 2015-2020 les exploitations agricoles inférieures à 52 hectares. Et là, les céréaliers ne sont plus contents du tout. Eux, dont les exploitations dépassent en moyenne les 150 hectares, vont se retrouver touchés de plein fouet par cette réforme. Ils crient au scandale, on voudrait la mort d'une filière d'excellence française, ce serait un coup de l'Allemagne, une conspiration anti-agriculteur. Bon après, ça dépend de ce qu'on appelle toucher. Les céréaliers français ont connu une augmentation de leurs revenus de 20% l'année dernière pour atteindre en moyenne 80 000 euros. La plupart des exploitations qui touchent les subventions sont des sociétés agricoles dont les dirigeants passent plus de temps à vérifier le prix des céréales sur les cours de bourse mondiaux qu'assis dans leurs tracteurs. Pas facile donc de se comparer aux éleveurs de porcs, de chèvres, de moutons ainsi qu'aux producteurs de lait qui travaillent sur des exploitations plus modestes, qui travaillent 7 jours sur 7, 14 heures par jour pour 25 000 euros annuels. Ceux-là souhaiteraient bénéficier de plus de soutien et de considération de la part des autorités, et surtout de plus de subventions. Les petits agriculteurs en ont bien besoin. On déplore en France un suicide tous les deux jours dans la profession. Pas facile, donc, la comparaison. C'est là que la toute-puissante FNSEA fait son entrée. La FNSEA, c'est un peu le MEDEF agricole. Sur la forme, elle fait son entrée sur la forme. Et oui, c'est important pour la récupération, la forme. La FNSEA a déjà démontré sa capacité de mobilisation, mais également sa maîtrise des codes modernes de communication. Les bonnets rouges, c'est bien leur idée. Pour faire simple, la FNSEA et son pendant le plus actif, les JA, jeunes agriculteurs, ont eu la bonne idée d'utiliser le prétexte de l'écotaxe pour associer leur image à l'image d'une région et d'un secteur en crise, pour faire valoir des revendications, elles-mêmes contraires à l'intérêt des petits producteurs. Bah quoi ? Vous n'aviez jamais vu un patron déguisé en syndicaliste surfant avec son tracteur de 3 tonnes sur une vague de bonnets rouges ?
Non, moi Thomas, j'avais pas vu ça. Pour te remettre de tes émotions, je te propose d'écouter Hypnolove avec Winter in the Sun. C'est un peu le temps fort du mois de novembre depuis plus de 10 ans. Le festival Culture Barbare envahit les cafés dans 54 villes en France. Musique donc, mais aussi expo et théâtre. Le festival a commencé hier et se poursuit ce soir et demain dans 11 cafés angevins et à Bouchemaine également. Nous avons pu interviewer David Milbeau, le chargé presse du festival Culture Barbare, par téléphone cet après-midi. Ce soir, il profitera du festival. Devinez où ? Eh bien, à Angers. C'est donc David Milbeau dans le combiné de Radio Campus. On se retrouve après. Culture Barbare, à l'origine, c'est un projet nantais. Il y a un creuset dans la région en termes de diffusion culturelle, il y a un terreau.
Alors, Culture Barbare est en effet née à Nantes en 99 autour de 14 patrons, patronnes de bar. Et aujourd'hui, nous sommes 400 dans toute la France. Si ça s'est créé à Nantes, certes, c'est que oui, il y a un terreau au niveau des cafés culture, cafés concerts. Bretagne, Pays de Loire ont toujours été des zones historiques de l'histoire du rock'n'roll, des cafés concerts. Et en 99, c'était aussi se fédérer pour pas être tout seul. Ça paraît très bête quand on dit ça, mais souvent derrière le comptoir tout seul, on se dit que ça serait bien d'aller voir ce qui se passe chez les collègues, chez les copains. Et donc l'idée, voilà, c'était de se fédérer pour essayer de trouver des solutions aux problématiques de diffusion culturelle, aux problématiques des cafés-concerts plus particulièrement. Et donc voilà, c'est pour ça que le collectif est né dans le coin, avec évidemment une dynamique de plusieurs personnes qui ont voulu l'étendre avec réussite sur l'ensemble du territoire.
C'est quoi les problématiques des cafés-concerts dont vous parliez ?
Les problématiques, elles sont à la fois économiques, sur une précarité économique de ces petits lieux. Elles sont aussi de la vision que l'on peut avoir de ces lieux. Nous, on milite pour affirmer et assumer notre place au sein du secteur culturel et plus particulièrement des musiques actuelles, en affirmant que les cafés-concerts, les cafés-cultures sont un des maillons essentiels de la chaîne de diffusion. C'est-à-dire que entre le garage et la grande salle de concert, il y a le café où on fait ses premières marches, ses premiers pas, ses premières scènes. Il y a des problématiques juridiques, avec un millefeuille de loi, que ce soit sur les questions de pratique amateur, sur les questions de mise aux normes techniques. Et puis évidemment, au quotidien, ce sont souvent les rapports aux riverains qui sont pas évidents. Donc c'est pour ça que nous, on propose de mettre en place des médiations avant de parler de répression.
Oui, vous parliez de l'importance des cafés pour la diffusion culturelle. Vous trouviez qu'on avait oublié l'importance de ces lieux, que ça se perdait ?
Alors, c'est pas qu'on l'a oublié, c'est que voilà, pas toujours bien considéré, mais aussi des lieux qui ont fermé depuis 98 avec la loi anti-bruit notamment, avec une économie qui n'est pas forcément simple. Donc voilà, l'idée, c'est de redonner cette image positive que sont ces lieux-là, à la fois pour la culture et pour le lien social.
Et de retrouver une certaine convivialité également.
La convivialité, elle a toujours existé dans ces lieux-là. Mais voilà, c'est de dire que, en effet, avant tout, ce sont des lieux conviviaux et de proximité.
Alors, en Anjou, vous vous contentez pas d'Angers, il y a aussi Bushmen, dans lequel le festival est programmé. Vous souhaitiez importer la musique dans les petites villes aussi, voire en campagne, peut-être ?
Le collectif Culture Barbare, c'est vrai que quand on regarde la carte, on voit que c'est plutôt des grandes villes, des villes moyennes, mais la problématique et les questions juridiques, elles sont exactement les mêmes dans l'urbain comme dans le rural. Donc, si des lieux veulent nous rejoindre et adhérer à la fédération, à la fois participer aussi au festival, parce que sur les 400 adhérents, il y en a 221 qui font le festival, c'est pas obligatoire, évidemment, ils sont les bienvenus.
C'est aussi l'opportunité de faire émerger des groupes locaux. Par exemple, à Angers, là, cette année, il y a Benouz qui est programmé. Alors lui, on le connaît depuis longtemps, c'est Benjamin Pia. Il y a aussi Power Cush Experience, enfin des groupes angevins. C'est aussi ça le but de Culture Barbare.
Le but de ces lieux, et plus particulièrement des adhérents, c'est évidemment de tourner la plupart du temps des artistes locaux pour un public local. Donc c'est vrai que c'est plus simple en termes de réseau de tourner les groupes de la ville. Et donc c'est vrai que ça permet à des groupes qui n'ont jamais fait de scène de faire leur première scène, et puis à des groupes qui sont un peu plus connus sur le terrain, qui aiment bien revenir aussi dans ces cafés.
Il y a aussi des têtes d'affiche, je pense à Mikko Inanen qui était au T-Rock Coco hier, le jazzman finlandais.
Oui.
C'est une présence rare, c'est aussi ça, Culture Barbare, c'est faire venir des têtes d'affiche.
C'est aussi ça, et notamment par rapport au lieu, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que pendant le festival, un lieu est un programmateur, c'est-à-dire que sur les 221 lieux dans toute la France, ce sont 221 programmateurs. Il n'y a pas une équipe qui va dire « on va mettre ça chez toi, on va mettre ça chez toi ». Comme ça, la diversité culturelle est une fois de plus comme à l'année, parce que c'est vraiment une vitrine de ce qui se fait à l'année dans ces lieux-là. Et c'est vrai qu'un lieu comme le Terrain, qui a l'habitude de recevoir des groupes étrangers, européens, donc ça montre ce qui fait à l'année, oui.
Oui, c'est important de le préciser, ça, que le programmateur, c'est le café-concert et que c'est pas la Culture Barbare qui impose des noms.
Tout à fait. Nous, on coordonne Le festival au niveau de l'équipe et des adhérents, on coordonne, mais le lieu met ce qu'il a envie de voir dans son établissement, c'est-à-dire que sa programmation est à l'image des personnages derrière le comptoir et à l'image des lieux.
Et en général, le public de Culture Barbare, c'est un public d'habitués ou ça draine d'autres personnes ?
C'est le public d'habitués qui vient tout au long de l'année dans ces lieux-là, mais c'est vrai que ce coup de projecteur annuel permet à des personnes de changer de lieu selon la programmation, ou souvent à des nouveaux arrivants d'aller dans ces lieux pour découvrir ce qui s'y passe.
Est-ce qu'il y a une promenade qui se fait dans les rues aussi ? On part de bar en bar.
Exactement. C'est exactement. Il y a des personnes qui vont prendre la programmation et se préparer une petite déambulation sur les trois soirs.
Alors, il y a 11 cafés à Angers qui font partie du festival. C'est, oui. C'est eux qui sont manifestés, donc.
Alors, sur Angers, on commence à travailler depuis un petit moment avec les adhérents. C'est vrai que là, on a augmenté en nombre d'adhérents. Il y a 12 adhérents à Angers, dont 11 qui font le festival. On travaille à l'année sur les questions de diffusion culturelle, sur la gestion de la vie nocturne au quotidien. Et cette année, c'est vrai que on est de plus en plus nombreux sur Angers et c'est une bonne chose.
Vous avez évoqué la loi de 1998, là vous revenez de parler de la vie nocturne, ça a été un vrai problème pour les cafés-concerts.
L'objectif de la fédération qui est Culture Barbare, c'est vraiment de poser une réflexion sur la vie nocturne, mais de façon globale, et de sortir uniquement du prisme, d'une vision réglementaire. Si on parle que de réglementation, on n'arrivera pas à s'en sortir en effet. C'est pour ça que nous, on appuie sur le fait que dans ces lieux-là, la nuit, il y a de l'emploi, il y a de la culture, il y a du tourisme, il y a du lien social, il y a de la convivialité, et il y a des questions aussi de santé publique, il y a des questions de transport nocturne. Donc l'idée, c'est vraiment de tout mettre en débat pour pouvoir essayer de mieux vivre ensemble, à la fois le jour et la nuit.
Et c'est difficile à mettre en place auprès des autorités ?
C'est pas toujours facile, en effet. De mettre en place des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux dispositifs. Donc voilà, avec le temps, on discute, avec la ville d'Angers notamment, on discute, et l'idée, c'est de travailler et de trouver des solutions communes sur les différentes questions, notamment de la vie nocturne.
Alors, Culture Barbare, c'est des concerts, certes, mais c'est aussi des expos, comme celle de Goop, les étudiants des Beaux-Arts. Et puis, il y a aussi du théâtre d'improvisation. Ça fait combien de temps qu'il y a d'autres formes d'art comme ça ?
Sur le collectif, depuis tout le temps, et dans les cafés depuis toujours, c'est vrai qu'il y a une déformation, un défaut de langage. Moi, le premier, on parle de café-concert, mais dans ces lieux-là, en effet, ce sont aussi les premières scènes pour le théâtre d'improvisation, pour les slameurs, pour les expositions, parce que c'est vrai que souvent les lieux changent tous les mois d'exposition, donc c'est vraiment un espace d'expression diversifié, même si 80% ce sont des concerts, du live ou des DJ, toute forme de culture a sa place dans ces petits lieux-là. Ce soir, je serai sur Angers, et demain à Nantes, l'idée c'est d'aller voir de nombreux adhérents pour voir comment ça se passe pendant le festival, comme tout au long de l'année d'ailleurs. Et puis c'est vrai que par rapport au festival, je me suis rendu là où il y avait un peu plus de lieux, et c'est vrai que Angers fait partie notamment des villes où il y a pas mal d'adhérents.
Angers, c'est une des villes phares pour le festival ?
Pour le festival, Angers doit être la cinquième ville avec le nombre de festivaliers, donc au nombre de 11 ans.
C'est quel type de ville qui marche le plus pour ce genre de programme ?
C'est Nantes, Toulouse, Lille et Paris ce jour, mais voilà, on augmente aussi chaque année du côté de Poitiers, et puis il y a des projets qui se mettent aussi en place un petit peu sur toute la côte vendéenne, dans le sud-ouest aussi prochainement. Ouais.
Et donc vous êtes à Angers ce soir, qu'est-ce que vous allez aller voir ? Qu'est-ce que vous nous conseillez pendant cette soirée ?
Moi je vais aller faire un petit tour pour aller voir l'ensemble des adhérents, et je pense que c'est à chacun d'aller piocher. Je vais faire comme le public lambda. Je vais déambuler, puis aller voir ce qui se passe un petit peu partout. Donc, j'ai pas forcément de conseils. Le conseil, c'est d'être. Soyez curieux. N'hésitez pas à découvrir de nouveaux lieux si vous les connaissez pas, ou alors de faire votre chemin par rapport à vos goûts artistiques. Si vous êtes plutôt rock'n'roll ou plutôt électro, je pense qu'il y a de quoi contenter tout le monde.
Alors, Culture Barbare, c'est la 12e édition cette année, 54 villes. Est-ce que vous voyez plus loin ? La suite, c'est quoi ?
La suite, on augmente chaque année, donc certainement que l'année prochaine, on sera plus nombreux. La suite n'est pas que le festival. Le festival, c'est un temps fédérateur pour les adhérents, le public et les artistes. Mais la suite, c'est le quotidien, c'est de travailler sur ces questions de diffusion culturelle, sur ces questions de gestion de vie nocturne au quotidien. Parce que voilà, Culture Barbare et ses adhérents, c'est pas que 3 jours dans l'année, mais toute l'année au sein des villes et des campagnes.
Toute l'année, c'est porté cette idée-là que la diffusion culturelle se passe aussi dans les cafés.
Exactement.
Bon, ben, on vous souhaite une bonne soirée à Angers, alors.
De même, bonne soirée, profitez bien.
Un très bon festival et merci d'avoir été au téléphone avec nous.
Merci à vous, au revoir.
David Milbeau, donc, qui était au téléphone cet après-midi pour parler du festival. Et vous retrouvez toutes les infos, le programme du festival sur le site festival.bar-bars.com. Et tout de suite, on écoute Mamba for Cats. Le groupe de cumbia électro sera demain soir au Bar du Quai dans le cadre du festival, justement.
Ladies and gentlemen, that moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Here this evening. Young lady, what is your name?
Christina.
And how about your fellow here?
This is good.
All right, let's see what you can do. Take it away. We'll be right back.
Sonia, périscope à l'œil, scrute l'actu toute la semaine pour nous livrer son débrief perso et donc forcément subjectif le vendredi à 19h30 et des poussières. On écoute tout de suite.
Salut à tous, dans l'actu cette semaine. Ce week-end, un événement dramatique a marqué l'actualité. Une catastrophe nationale, une sorte de cataclysme. La défaite de l'équipe de France de football face à l'Ukraine au match aller. Spécialistes du ballon rond, anciens membres de l'équipe des Bleus, tous s'étaient réunis sur les plateaux de télé pour donner leur avis sur cet événement tragique. C'est vrai que c'est quand même plus important qu'un Boeing 737 qui se crache en Russie et qui fait 50 morts, ou encore plus important que le grand rassemblement mondial qui a eu lieu samedi dans différentes parties du monde pour soutenir les 30 militants de Greenpeace détenus en Russie. Sinon, c'est une actualité également marquée par l'évasion de l'ex-otage français au Nigeria, Francis Colomb. Cet ingénieur de 63 ans avait été enlevé le 19 décembre 2012 par une trentaine d'hommes armés dans le nord du Nigeria. Il s'est échappé au moment où ses gardes priaient, puis a enfermé l'un des gardiens dans sa propre cellule et a quitté la maison dans laquelle il était détenu pour se mettre à courir quelques kilomètres avant de demander de l'aide. Lundi, une vraie chasse à l'homme a débuté. Un homme a ouvert le feu lundi dans les bâtiments du quotidien Libération, blessant grièvement un assistant photographe de 23 ans. S'en est suivi une heure et demie plus tard de tirs dans le quartier de la Défense à Paris, ainsi que d'une prise d'otage sur les Champs-Élysées. Un appel à témoins a été lancé dans l'après-midi afin de mettre la main sur le tireur qui sème la panique dans les rues de la capitale. A noter que ce même homme est soupçonné d'avoir fait irruption dans les locaux de
BFM TV, première chaîne d'infos de France.
Sauf que notre équipe de recherche, faut pas se leurrer, c'est pas le FBI américain. Ils ont mis 3 jours pour la main sur l'homme qui semblait se balader sereinement dans les rues et le métro parisien. Superval s'était exprimé à ce sujet.
Personne ne doute de la très grande détermination des policiers, c'est bien sûr la mienne.
Mardi. Ils l'ont fait. À croire que pour gagner, les Bleus ont besoin que l'on parle d'eux, de supporters motivés, d'un Premier ministre qui les soutient à fond.
Il ne faut jamais renoncer. Hein, et même quand c'est difficile, il faut encore se battre davantage. Et je crois que c'est ce qu'ils vont faire ce soir.
Et de la présence d'un président dont la cote de popularité est plus basse que la leur. Score final, 3-0. Les supporters étaient euphoriques, on en oublie même qu'il y a encore quelques semaines, nos Bleus voulaient manifester parce qu'ils avaient peur de voir leur salaire mirobolant baisser. Ah là là, la magie du football. Mardi toujours, une explosion a eu lieu devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth, la capitale libanaise. Les attaques ont été revendiquées par un groupuscule islamiste lié à Al-Qaïda. Au moins 22 personnes ont été tuées et 146 autres blessées. Mercredi, l'homme le plus recherché de France a été interpellé mercredi soir à 19h dans une voiture, presque inconscient après avoir consommé des médicaments. Il s'agit d'Abdelhakim Dekar, connu sous le nom de Toumi, déjà connu des services de police car il est en effet le troisième homme de l'affaire médiatique Rem Opin de 1994 qui avait valu le décès de 5 personnes dans les rues de Paris. À Angers, mercredi également, le grand écran LED situé sur le boulevard du Roi René, face au château, a été définitivement mis hors service et sera retiré prochainement. En effet, il avait été installé illégalement et avait été la cible de nombreuses critiques. Et l'architecte des bâtiments de France avait d'ailleurs déposé plainte contre la société d'affiches publicitaires. Les chiffres sont tombés. Le taux de chômage d'Angers dépasse le niveau national, atteignant 10,6% au second trimestre. Et enfin, attention, il revient. Nicolas Sarkozy est apparu plusieurs fois cette semaine et les semaines précédentes. Souvenez-vous du reportage diffusé sur Direct 8 il y a quelques semaines dans lequel on le voit pouponner. Cette semaine, il était présent au concert de sa femme, volant à plusieurs reprises la vedette de cette dernière. Et en grand chef de patrie, il a même déclaré mardi lors d'une conférence de presse à Londres qu'il hésitait entre la politique et le business. Nico prend le business, je pense. Et qu'il n'avait pas tellement envie de revenir, mais qu'il y a des circonstances où l'on ne peut pas se dérober. Ben voyons.
Et c'est l'heure de retrouver Clara à la barre, notre chroniqueuse sexo. Clara, cette semaine, tu as mené ta petite enquête avec cette question cruciale. Quelles sont les positions préférées des angevins?
Et oui. Alors, l'équerre, l'antilope, la levrette, la cuillère. Et oui, tous ces noms ont tous un point commun, ce sont des positions. On pourrait d'ailleurs parfois croire le contraire, car ces positions ont la même appellation que des noms courants. L'équerre, avec son nom géométrique et technique, est une position simple et reposante. Elle est également appelée le repos du guerrier. Bon, le repos est en fait pour la femme feignante, lui, l'homme fait tout. L'antilope, nom très animal, c'est le moins que l'on puisse dire, réveille les bêtes sauvages qui sommeillent en vous. Alors les nanas, faites l'antilope. On connaît tous de nombreuses positions sexuelles, mais les a-t-on déjà essayées? Le Kama Sutra, coffre-fort de ces positions en tout genre, nous offre parfois des images bancales qui seraient risquées à faire chez nous. Des positions improbables ou tout simplement impossibles. Les jeunes ne connaissent parfois pas le terme exact de la position qu'ils aiment pratiquer, ou pratiquent toujours la même pour ne pas trop se tremper. J'ai donc voulu me pencher sur la question « Quelle est ta position préférée ?» Et si tu es apte à me répondre, bien sûr, toi, joli étudiant, je t'en demanderai les raisons. J'ai réalisé un micro-trottoir tout simplement au sein de l'Acato, mais également dans la rue Bressigny, qui grouille d'étudiants. Ma cible se situe entre les 18-25 ans, étudiants pour la plupart. Mais la tâche n'a pas été d'une grande facilité. Et oui, malgré ma bonne volonté et mes explications quant à ce micro-trottoir et ma délicatesse pour les interroger, je me suis rendu compte que cette question était taboue, et peu d'entre eux étaient enthousiastes à répondre. Le temps y jouait peut-être pour quelque chose, la pluie angevine accompagnée de ses 6 degrés seulement, la chaleur n'allait pas remonter. En plus de ça, ma question mettait mal à l'aise, ce qui est totalement compréhensible. Cela dit, je me suis retrouvée dans une situation contradictoire avec la société dans laquelle nous vivons, où le sexe est un sujet banalisé et évoqué dans la majorité des bouches, sans langue de bois, surtout chez les jeunes. J'étais quelque peu surprise, mais ma récolte fut fructueuse après quelques kilomètres parcourus. Je vous laisse écouter. Quelle position préfères-tu et pourquoi ?
Bonjour, alors moi j'aime beaucoup la levrette. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une position où il y a plus de sensations et c'est plus excitant et voilà, en gros.
Est-ce que vous voyez dans cette position une forme de soumission ?
Pas forcément, une forme de plaisir plus pour les deux partenaires, pour le coup, qu'une soumission.
Bah moi personnellement, ma position préférée, c'est quand je suis assis devant mon PC en fait. Parce que j'aime bien du coup avoir un peu, enfin pouvoir faire plusieurs choses en même temps et du coup, alors c'est cool, tu vois, genre je suis posé, puis genre on me fait des trucs pendant que moi je geek. Enfin moi je, bah, je sais pas, ça me semblait assez normal parce que j'étais assez lassé des positions classiques et tout. Et du coup là, on est vraiment dans l'optimisation du temps.
La cuillère ou la petite cuillère quand il est derrière moi. Et voilà.
Ma position préférée, c'est quand mon copain est assis sur le lit et que moi je suis sur lui et je l'entoure avec mes jambes comme ça. Ça favorise l'orgasme clitorinien, on va dire ça comme ça.
Ouais, ma position préférée, je dirais le 6-9 parce que c'est un peu la fusion des corps.
Donc ma position préférée, c'est un peu dur à dire. La missionnaire, c'est bien parce que du coup, on est assez en osmose avec mon copain, on s'entend bien de ce côté-là, ça se passe plutôt bien. Et puis, pour aller un peu plus, pas dans le trash, mais bon, c'est, voilà, la levrette, c'est cool aussi. Dans le sens où, comme plusieurs ont dû te le dire, c'est une sorte de domination, mais en même temps, c'est consenti, donc c'est chouette. Après, c'est vrai que selon l'humeur de la personne, enfin, moi, je sais que parfois, j'ai pas du tout envie, parce que j'ai pas, voilà, pas envie de me faire dominer, quoi.
Alors, ma position préférée, c'est le missionnaire, car j'aime bien être actif et avoir le contrôle sur ma partenaire. Et je trouve ça plus excitant. Et c'est là-dedans que je trouve mon plaisir.
Alors moi, j'aime bien quand mon mec est sur moi et que j'ai les jambes presque derrière la tête et qu'il tient mes fesses parce que c'est là que je sens bien toutes les sensations.
Donc moi, je préfère l'Amazon parce que c'est bien de dominer les hommes de temps en temps.
Moi, j'aime bien quand la fille, elle est sur toi mais qu'elle tourne le dos. Bah comme ça, tu vois son mouvement des hanches et des fesses, voilà.
Le mouvement des hanches et des fesses d'une femme. Comme vous avez pu le constater, les réponses sont divergentes. Entre Amazon, missionnaire, cuillère, 69, ou alors position non qualifiée, il y en a pour tous les goûts. Le plaisir sexuel est donc propre à chaque couple, mais aussi propre à chaque personne. En effet, dans un couple, un homme et une femme auront des préférences bien distinctes. Le but étant d'atteindre, bien évidemment, l'orgasme, ensemble ou chacun son tour. Et la plupart du temps, on dérive au lit, c'est-à-dire que nous commençons par une position des plus classiques pour terminer avec une autre complètement improbable. Ma question demandait peut-être des acquis trop pointilleux quant aux nombreuses positions qui existent, mais c'est aussi intéressant d'entendre les enquêter, les décrire, c'est encore plus intime. Je relève quand même la question du gain de temps, qui serait peut-être en vogue dans les prochaines années. Elle est, comment dire, originale. Mais cela se fait en total consensus, donc soyez devant votre ordinateur, messieurs, on ne vous dira rien. Et que tout le monde se penche sur le Kama Sutra, si ce n'est pas déjà fait, vous trouverez peut-être des trésors pour atteindre votre plaisir ultime.
Merci Clara. Et elle, on ne sait pas trop à quoi elle marche, mais ça a l'air de fonctionner. Mathilde, la dynamite du vendredi soir, nous raconte sa semaine culture.
C'était samedi dernier au Shabada, le tremplin régional de rap hip-hop suivi en deuxième partie de Flint. On y était avec Alice pour rencontrer 4 crises et Flint puis s'en prendre plein les oreilles. Un groupe par département sélectionné. 4 crises du Maine-et-Loire, Negrodiox de Vendée, Shanky de Sarthe, Biggie Dim de Mayenne, Gonzo et Schizo de Loire-Atlantique. La règle maintenant, c'était 15 minutes par groupe pour convaincre le jury et accéder au national. Pour une piètre amatrice de rap hip-hop que je suis, j'ai su apprécier chacun des groupes avec leurs particularités. Gonzo et Schizo qui a fait venir quelqu'un sur scène pour une de leurs musiques, pour traduire en temps réel leur son en langage des signes pour que, je cite, « cette musique soit accessible à vraiment tout le monde ». Avec une vitesse impressionnante, elle s'est donc mise à agiter ses mains au fil de la musique. Mais surtout avec un jeu de double personnalité, il enchaînait ses punchlines aussi vite qu'il passait de Gonzo à Schizo. Bien joué mais visiblement pas suffisant au jury. Ensuite, pour une scène hip-hop rap un peu plus atypique, c'était 4 crises. Atypique, pourquoi ? Il faut se l'avouer, en général, des stéréotypes véhiculés par le rap, c'est un enchaînement hallucinant de punchlines qui riment, ou pas toujours, une grosse casquette et des grosses baskets. Mais 4 crises, c'était l'humilité dans la parole et dans l'apparence. Avec une petite touche encore plus atypique, oui, de l'acoustique. Oui, oui, une guitare qui switchait entre basse et guitare plus vite que son ombre, et un autre aux percussions. C'est peut-être cette touche acoustique qui lui a valu une place au National à Marseille. Et la soirée close par Flint, un MC parisien notamment connu pour son featuring avec Orelsan, mon pote. Il nous a remué le cerveau avec un show énergique. Il était aux côtés de Nasm et DJ Blaze au platine. À sa question « Est-ce qu'à Angers on aime le vrai hip-hop ?», nous, public angevin, on lui a fourni une réponse plutôt positive. Et même lui nous a confié que le public était énergique ce soir-là. Il nous présentait des sons de son premier album « J'éclaire ma ville », du deuxième « Itinéraire bis » et de quelques-uns à sortir prochainement. Il disait « Du bon son, c'est ce que le peuple demande. Mission accomplie, Flint !»
Et alors la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait, Mathilde ?
Vous allez peut-être vous sentir noyé d'informations ce soir, alors à vos crayons. Je ne vous rappellerai pas du Festival Culture Barbare, enfin si, quand même, mais en bref. Donc ça commençait hier et ça se termine malheureusement demain soir. Ça tourne dans certains bars comme l'Arts Café, l'Ocapi, au Dublin's, le James Joyce, au T-Rock, au Welsh Pub, West Indies Café, à l'Entrepôt ou encore au Bar du Quai. Je suis certaine que certains d'entre vous ont entendu le nom de leur QG préféré, alors n'hésitez surtout pas, au grand nom de la musique, d'y pointer le bout de votre nez ces jours-ci. Cette semaine commence ce soir et demain soir dans le cadre du Festival Barbare. Je vous le rappelle, c'est la Casamix Party. C'est la soirée où vous enfilerez vos plus belles baskets jusqu'au bar du Forum. Et ça, c'est le bon plan de la semaine. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit et Casamix Record, un label purement angevin, c'est Mad Theory, Delta, Mamba Cats, Power Cash Experience, Arturo Rotunda sur 2 jours. À décortiquer tout ça, on trouve de l'or. Je vous en parlais la semaine dernière, Mamba Cats, ce trio de chasse sauvage. Ils vont nous offrir un son percutant et un visuel tout aussi déjanté. Avec notamment Fritz, un ancien de la Ruda, pour vous mettre la larme à l'œil, Arturo Rotunda et DJ Spock. Et c'est demain soir à la Casamix. Arturo Rotunda qui nous présentera son propre live ce soir à 23h avec notamment son remake que je trouve absolument transcendant de Riders on the Storm des Doors. Réutiliser un extrait de musique connue, un sample, le retravailler et ça donne Sample du jour, l'album d'Arturo Rotunda. Mad Theory avec un son aux bases puissantes pour certains morceaux avec la voix féminine de Power Cash Experience, voix aux sonorités type années 60-70, douce et profonde. Un son parsemé de petites touches électroniques. Une musique complètement rétro-futuriste, une touche du passé saupoudrée de son électro. Power Cash Experience maintenant un trio rock tout neuf du début de cette année sur la voix rock et rock de Little Sister et en anglais. Ils sont là demain soir pour leur premier concert depuis la sortie de leur album, pour un son heavy rock psyché. Elle disait hier soir, invitée de Radio Campus, « Voilà, fuck l'ordinateur ». Il milite pour un son authentique avec des vrais instruments. Leur morceau, notamment Slavery, qui traite, je cite, « des junkies de la musique ». Donc la Casamix Party pour les assoiffés de bons plans musicaux, c'est le moment de sauter dans ses chaussures et se diriger vers le bar du Forum.
Et parce qu'une chronique de Mathilde n'est rien sans sa touche électro...
Pour les plus hardcore d'entre vous, j'ai pioché pour vous cette semaine la Trix Party au Shabada demain soir. Adieu Dirty Electro et Bass Music. Cette année, c'est 22h-4h du mat. Pour les plus de 16 ans, avec une scène électro-minimale techno. Leur nom court les rues d'Angers en ce moment pour la 9e édition de la Trix Party. Jewel, G-Tronic, Lunatic Asylum, Rubber Pills, Nastits, Black Tiger, Sex Machine. C'est avec Back to the Rave de Rennes qui est organisée la Trix chaque année et demain soir, c'est une soirée avec des sets de techno, dark techno, battle de techno allemande qui en feront bouger plus d'un à mon avis.
Yes Indians, ils sont quatre et ils sont d'Angers.
C'est un quatuor qui émerge ici, comme l'a fait Lemon Queen et Future Dust, qui s'inscrit dans un genre d'indie pop. Ça parle à tout le monde. J'ai rencontré Maxime cette semaine, le chanteur-guitariste du groupe, ou récemment connu sur Angers aussi sous le nom de San Carol, qui m'a confié 2-3 infos sur leur groupe. Leurs influences? Après hésitation, Incubus ou Django Django. Un album ou un EP? Un EP il y a 2 ans et 2 tout nouveaux morceaux bientôt sur la toile. Yes Indians, c'est aussi surtout des influences au niveau de la pop, du rock alternatif, un peu de sonorité world comme des rythmiques afro. Au T-Rock Coco, le 28.
Elle a une voix puissante et envoûtante.
Elle est magnifique et c'est une reine de la bidouille sur sa Fender et cultive une aura de mystère autour d'elle, Anna Calvi. Elle est présente au Shabada le 28 novembre pour un rock hypnotique ou mélodramatique selon les goûts. Elle nous présentera One Breath, son 2e album et tout dernier.
Et là je vais t'embrasser parce que tu vas parler de ma ville.
Avis aux amateurs du festival Couvre-feu. Pour les plus téméraires, le 30 novembre, c'est la 7e édition du festival Couvre-toi à Saint-Brévin-les-Pins derrière Nantes. Toujours dans l'ambiance couvre-feu, on y verra les Ogres de Barbac pour une musique de rue rythmée, Culture Shock, un groupe américain avec un son un peu plus punk, Andreas et Nicolas pour un métal acoustique, j'ai même lu, qui m'a fait beaucoup rire cette semaine, des amateurs de comptines au vitriol. Et Couvre-toi donc, qui se terminera avec DJ Click, fondateur du groupe UHT qui produit un son jazz électro. C'est donc le 30 novembre à Saint-Brévin. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas, cette semaine c'est encore une vague d'événements sur Angers.
Et vous ne pouvez plus dire que vous ne connaissiez pas Saint-Brévin-les-Pins. Merci Mathilde de ne pas nous laisser tout seul face à ces nuits d'hiver. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait donc si on décide de boycotter le festival Culture Barbare, ce qui serait un tout petit peu stupide. Mais bon, dans le cas du mois du film documentaire, les 400 coups projettent « À ciel ouvert » de Mariana Otero en présence de la réalisatrice. Au théâtre Chanzy, il y aura la pièce Venise sous la neige à partir de 20h30. Et c'est Frac en mal d'amour qui sera joué à l'atelier de la Cité à la même heure. Théâtre toujours à 20h30, la compagnie Les Enjoués jouera Les Fous de la Reine au théâtre de la Comédie. Au Café Latin, soirée punk rock folk avec des groupes américains et écossais. Mister N joue au Donza à 21h30. À 20h45 au Shabada, Pocky Lafarge distillera son American Blues pour la modeste somme de 5€. Et puis, c'est pas musical, mais la marche des femmes prend son départ dans 10 minutes depuis le centre commercial Fleur d'Eau pour protester contre les agressions faites aux femmes. Il est l'heure pour nous de lâcher l'immersion. Aux manettes ce soir, c'était David. Et derrière les micros, Thomas, Sonia, Clara et Mathilde. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet www.radiocampusangers.com. Tout de suite, vous retrouvez Ciné Qua Non, l'émission sur le cinéma, forcément. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. Hier soir, Power Coach Experience était dans l'émission de Marion et Robin Turbulence. Tu en parlais, Mathilde, tout à l'heure. Ils nous ont livré une session live. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Campus et un très bon week-end aussi. On se retrouve lundi à 19h. Allez, bisous.
I've been grappling so long with trouble to some degree. Lost at seeking the missing piece to the puzzle, but lonely. But now I'm fearless and free. Since they don't know me, since they don't know me. Yeah.
but my roots are deep. I don't need flee through the darkness and sleep. For I know the taste of freedom, for I feel my inner kingdom. Back and looking for baby,
c'était les Power Cush Experience dans les turbulences de Radio Campus.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Création, découverte, etc. Radio Campus.